Dans quelques instants, ce sera l'émission au Dialogue entre Congolais. Je crois qu'ils sont déjà en place. Alors, je vous invite à suivre l'émission au Dialogue entre Congolais avec Claude Florent à la présentation.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Dialogue entre Congolais de ce lundi 16 juin 2008. Bilan de la session ordinaire du Parlement. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait et en quoi les lois votées vont-elles améliorer les conditions de vie des Congolais? Ce sont là les deux questions que nous nous posons ce soir. En effet, la session ordinaire de mars 2008 s'est clôturée hier dimanche à l'Assemblée nationale et au Sénat. Certaines lois pourtant essentielles et prévues dans le calendrier de mars n'ont pas été votées. Parmi elles, il y a notamment cette loi sur la décentralisation. Trois invités ce soir pour en parler. Aubin Minaku, député national PPRD, Romain Nimi, sénateur MLC et le professeur Philippe Bioya, analyste politique. Vous êtes nombreux à avoir déjà réagi. François Makiambe de Bukavu Sud Kivu pense que le bilan de cette session est largement positif car, d'après lui, le Parlement est la seule institution qui joue réellement son rôle constitutionnel. Nico Munganga de Bukavu, toujours au Sud Kivu, estime que malgré les lois déjà votées, les conditions de vie de la population congolaise demeurent très déplorables, sauf celles des tenants du pouvoir. Enfin, Jean-Pierre de Moba au Katanga rappelle que ventre affamé n'a point d'oreille. Selon lui, pour soulager le misérable peuple congolais, une seule lueur d'espoir, la loi sur la décentralisation qui traîne au détriment du peuple congolais.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081-05-15-778 ou appelez-nous au 081-890-66-78.
Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait dans la session ordinaire du Parlement qui vient de s'achever? C'est la première partie de cette émission et notre confrère Guy Maté s'est penché notamment sur le travail fait à l'Assemblée nationale et nous en fait un résumé.
Sur les 24 lois inscrites à l'ordre du jour de la session ordinaire de mars, 5 ont été adoptées à l'Assemblée nationale. 6 ont été débattues en plénière et envoyées en commission permanente pour examen approfondi. 5 projets de loi sont en cours d'examen en commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat. Soit plus de 65% des lois prévues ont été examinées par l'Assemblée nationale. Par ailleurs, 12 projets de loi seront examinés lors de la session extraordinaire inaugurée aujourd'hui. Il s'agit de la loi sur la commission électorale nationale indépendante s'est mis en cible, quelques lois relatives à la décentralisation ainsi que la loi sur la réforme de la justice. 6 lois sont en cours d'élaboration au gouvernement. C'est le cas de la loi sur les limites des provinces, de la loi sur le découpage à l'intérieur des provinces, de la loi sur les entités territoriales déconcentrées, de la loi sur la nomenclature des taxes, de la loi financière ainsi que la loi sur le statut des chefs coutumiers.
Merci beaucoup Guy Maté. Comme il vous l'a dit, la session extraordinaire du Parlement est ouverte aujourd'hui. À Kinshasa, bonsoir Romain Nimi.
Bonsoir.
Vous êtes sénateur membre du MLC. Vous venez de suivre les résumés de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire au cours de cette session ordinaire du mois de mars. Et quelle est votre réaction par rapport, vous avez fait à peu près 60% du travail?
Écoutez, je vous remercie. Effectivement, je partage l'analyse qui vient d'être faite ici. C'est vrai que le travail est fait avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de conscience par le Parlement congolais, qui est à féliciter à mon avis. Je pense que le rythme de travail également est bon, mais pour apprécier le travail d'un Parlement, il faut l'apprécier au niveau de l'ensemble de fonctionnement institutionnel. Et je pense, me semble-t-il, que c'est à ce niveau que se pose le problème, au niveau, donc, pour être clair, de l'application des décisions parlementaires par l'organe exécutif.
Merci beaucoup, sénateur Romain Nimi, honorable Romain Nimi, comme on le dit. Bonsoir, Aubin Minaku.
Bonsoir.
Vous êtes député national PPRD. Quel est le bilan que vous faites aussi par rapport à cette session ordinaire qui vient de se terminer?
Oui, je crois qu'il est plus judicieux de d'établir un bilan par rapport au contexte général. Nous sommes dans un contexte complexe de reconstruction. Après une destruction du pays, notamment sur le plan normatif, depuis plus de 40 ans. Et dans un contexte pareil, ce n'est pas facile. Malgré cela, Je crois que le Parlement est en train d'atteindre sa vitesse de croisière, ce qui est à encourager. Et il faut aussi encourager qu'il y ait davantage de synergie entre toutes les institutions pour que réellement nous puissions décoder.
D'après vous, quelles sont les grandes lois que vous avez examinées et adoptées, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat?
Bon, nous, je pense particulièrement aux quatre lois par rapport qui portent sur la réforme du portefeuille de l'État. C'est très important sur le plan économique parce que tout le monde décrit depuis des années la spoliation des richesses de la République et tout ça. Ces lois permettront plus d'ouverture, plus de dynamisme, plus de libéralisme dans notre monde économique, et cela augure d'une économie plus forte à l'avenir.
Merci beaucoup, Robin Minaku. Bonsoir, Philippe Bioya.
Bonsoir, Tom.
Vous enseignez les relations internationales à l'Université de Kinshasa et dans plusieurs autres universités du pays. Quelle lecture faites-vous de ce travail qui a été fait à l'Assemblée nationale au cours de cette session ordinaire qui vient de s'achever?
Ben, comme l'ont dit les honorables parlementaires qui sont au micro, si l'on juge la dynamique de chaque institution du pouvoir parlementaire en tant que pouvoir parlementaire plus isolément, c'est sûr que conformément au calendrier qui se sont donné, ils ont abattu un travail impressionnant. Mais si, comme Romain l'a dit, si l'on prend en fait le travail, l'on veut apprécier le travail du Parlement par rapport à l'action du gouvernement, parce que il me semble que les institutions ne fonctionnent pas simplement parce que les institutions existent. Les institutions fonctionnent par rapport à l'action, par rapport aux attentes de la population, mais dans la mesure où l'on n'a pas l'impression que l'action gouvernementale bouge ou résout les maux dont souffre le pays depuis très longtemps, l'immobilisme institutionnel, l'hétérodétermination et la pauvreté toujours croissante, la misère de la population. Et je crois que si l'on veut apprécier ces lois par rapport à leur capacité de résoudre le problème de la société, l'on doit être en train de s'interroger finalement à quoi rime l'activisme du Parlement.
Merci beaucoup, professeur Philippe Bioya. Je reviens à vous, honorable Romain Nimi. Je rappelle que vous êtes sénateur membre du MLC. Vous avez parlé d'un problème d'application de ces lois. Mais finalement, qu'est-ce qui bloque pour que ces lois soient normalement appliquées, d'après vous?
Écoutez, d'après moi, je pense qu'il y a un problème de fond au niveau de la majorité que nous gouverne. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans notre pays, il existe une majorité qui assume, ou qui devrait assumer la responsabilité de la conduite des affaires du pays.
Et qui est tout à fait normal.
Ce qui est normal, je n'en dis qu'on ne vient pas, et il existe une opposition.
Oui, normal aussi.
Normal. Donc ce qui devrait se passer, comme cela se passe dans toutes les démocraties, c'est qu'il devrait y avoir une synergie entre les lois votées par la majorité parlementaire et l'action correspondante du gouvernement. L'action qui devrait aller dans le sens du soulagement, précisément, de la misère de la population, du soulagement de la souffrance de la population, qui ferait qu'au bout du terme, on puisse porter un jugement de bilan sur le travail accompli. Je vous rappellerai au passage que les deux axes principaux du travail parlementaire s'articule autour du travail législatif à proprement parler, mais surtout du travail de contrôle. Or, c'est précisément dans ce rôle de contrôle qu'il y a un défaut au niveau de l'appareil exécutif. Nous avons non plus l'impression seulement aujourd'hui, mais la conviction au regard des faits que c'est comme qui dirait le Parlement crie dans le désert, parce que les décisions prises, les enquêtes menées, les lois votées ne sont manifestement pas suivies des faits. Et donc, il y a lieu de conclure qu'il y a soit une incompétence caractérisée au niveau du gouvernement, soit une mauvaise foi manifeste. Je me garderai d'opter pour l'un ou l'autre, étant entendu que les deux hypothèses sont chaotiques pour le pays.
Robin Minaku, vous êtes de la majorité présidentielle, donc vous êtes député national PPRD. Romain Nimi, qui est sénateur MSD, vient de dire que s'il y a un problème d'application des lois que vous votez, que vous adoptez à l'Assemblée nationale, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de coordination entre les élus, et c'est-à-dire la majorité et le gouvernement, d'où est issu, qui est issu au fait de cette majorité parlementaire. Il dit que c'est peut-être aussi un problème de soit d'incompétence du gouvernement ou soit de mauvaise foi, mais il ne pouvait opter pour ni l'un pour ni l'autre hypothèse.
Bon, merci. Je crois que lorsque j'étais au téléphone, j'ai parlé de la synergie nécessaire. Et je comprends aussi, c'est de bonne guerre de la part de l'opposition de crier rapidement à l'incompétence caractérisée. Mais je ne suis pas de ce point de vue. Tout simplement parce que, je l'ai rappelé, la tâche est titanesque. Du côté de l'Assemblée nationale, du Sénat, nous avons atteint déjà une certaine vitesse de croisière. Du côté du gouvernement, s'il y avait mauvaise foi, s'il y avait incompétence caractérisée, mauvaise foi par rapport au travail législatif sorti du Parlement, toutes les lois adoptées en bonne et due forme et transmise auprès du président de la République, n'aurait pas dû être promulguée. Toutes ces lois sont promulguées dans un délai conforme. C'est positif. Deuxièmement, par rapport au contrôle parlementaire, il me semble que les ministres répondent conformément au prescrit de la démocratie.
Mais nous avons suivi hier le président de l'Assemblée nationale lors de la cérémonie de clôture de la session ordinaire du Parlement évoquer le fait que l'Assemblée nationale allait descendre elle-même, c'est-à-dire les députés, dans certains sites spoliés de l'État spolié, notamment à la tenue de la gare, pour faire le suivi de certaines mesures qui avaient été prises dernièrement, recommandations faites par l'Assemblée nationale à l'endroit du gouvernement. Il semble que le suivi ne se fait pas d'après le président de l'Assemblée nationale.
Dans un système démocratique, il est tout à fait normal que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent chercher à ce que leurs recommandations soient mises en œuvre par le gouvernement.
Est-ce que c'est tout à fait normal? Est-ce que c'est le travail des députés de descendre sur le plateau, contrôler comme des
représentants? C'est le travail des députés d'assurer le monitoring des résolutions, des recommandations qui sortent de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas l'avocat de chaque ministre individuellement. Et au terme de ce travail, s'il y a des ministres au sein du gouvernement qui ne remplissent pas comme il se doit leur mandat dans l'intérêt de la République, nous allons en tirer les conséquences. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle d'une motion de défiance au niveau de l'Assemblée nationale.
Il y en a déjà une motion de défiance contre Lambert Mende, ministre des Hydrocarbures.
Oui, c'est vrai.
Voilà, Philippe Bioya, je rappelle que vous êtes, vous enseignez les relations internationales à l'université de Kinshasa et dans plusieurs autres universités du pays. Est-ce que vous partagez le même avis que Aubin Minaku, député national PPRD?
Bah, je crois qu'il a raison de dire ce qu'il dit, mais moi je situe la difficulté que vous relevez à un double niveau, à la fois technique et je dirais même philosophique. Parce que le vrai problème, lorsque l'on prend notre système institutionnel aujourd'hui, si on le veut parlementaire au vrai sens classique du terme, c'est que le vrai pouvoir est au Parlement, et comme ce Parlement a un gouvernement, en principe, c'est ce gouvernement qui aurait dû assumer le pouvoir du Parlement. Or, il se fait. Première difficulté, que vous savez que nous avons une majorité de coalition, et que le gouvernement, quoique théoriquement, serait issu du Parlement, mais c'est un gouvernement qui est issu d'un accord extra-parlementaire, qui fait que le chef du gouvernement n'a pas le bon pouvoir parce que il n'est même pas parlementaire et puis il n'est pas issu de la majorité, il n'est pas le leader de la majorité parlementaire. Et c'est que le Parlement lui-même, me semble-t-il, sur le plan de la philosophie du pouvoir, est présidé par un éminent membre du parti majoritaire, PPRD, qui malheureusement n'a pas la majorité absolue. Et c'est même dans la logique, en fait, des collaborations avec le pouvoir, parce que le vrai leader des institutions du pouvoir aujourd'hui, c'est le président de la République, qui a donné sa majorité au Parlement. Alors vous voyez que le pouvoir ne semble pas résider effectivement au Parlement, et que, en fait, tout ce qui se fait, en fait, n'arrive pas à accumuler cette difficulté parce que, du point de vue constitutionnel, c'est pas le président qui agit au quotidien. Alors là, la principale difficulté qui arrive, c'est que le gouvernement aurait dû, en fait, se saisir, en fait, des supports, du soutien qu'il devait censé recevoir de la majorité de coalition pour effectivement agir. Or, il me semble là, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas exactement comment cela se fait. Et je pense que tout cela arrive aussi parce que, au moment de l'investiture du gouvernement, je crois que le Parlement n'a pas cru bon, effectivement, de se montrer assez exigeant et d'investir, en fait, dans le programme d'action que le gouvernement présentait. Ils donnaient l'impression qu'ils étaient là juste pour donner une certaine légitimité, et mais qu'ils n'entraient pas tellement dans la vérité de la politique qu'eux-mêmes devraient porter et dans laquelle on devait juger l'ensemble de la majorité. Et c'est ce qui fait que je l'ai entendu parfois le président de l'Assemblée dire est-ce que c'est ça le travail que le Parlement doit faire. Donc j'ai comme l'impression que quelque part aussi, le Parlement ou le bureau n'arrive pas à savoir exactement là en quoi va consister le contrôle. Est-ce que le contrôle consiste au redressement de l'action du gouvernement ou simplement à s'informer des difficultés que le gouvernement rencontrerait quant à la mise en place de sa politique. J'ai bien l'impression que c'est de ce côté-là. Donc, la majorité fonctionnerait principalement pour des raisons de conservation du pouvoir ou comme un chambre, en fait, du gouvernement plutôt que comme une institution qui a une autonomie institutionnelle à sauver pour permettre, en fait, à l'ensemble des institutions d'entrer dans la synergie que voudrait mon frère Aubin qui tout à l'heure.
Merci beaucoup, professeur. Je retiens que pour vous, le Premier ministre Gizenga n'a pas le vrai pouvoir, mais le pouvoir se trouve auprès du chef de l'État, puisque c'est un gouvernement de coalition. Et vous dites également que le Parlement, l'Assemblée nationale ne joue pas convenablement son rôle. C'est une sorte de quête de résonance du gouvernement et que ce gouvernement ne bénéficie pas d'un soutien suffisant. Est-ce que Romagny, vous êtes député, sénateur MLC, vous pensez que l'Assemblée nationale ou le Parlement actuel, qui est dominé par l'AMP, l'Alliance pour la majorité présidentielle, est-ce que c'est une quête de résonance et ne fait pas bien son travail ou elle n'appuie pas véritablement le gouvernement? Est-ce une quête de résonance du gouvernement parce qu'il est d'une coalition?
D'abord, je pense que l'excuse de la coalition ne tient pas la route. Je pense que la majorité au pouvoir est suffisamment large que pour diriger. À ma connaissance, il n'y a pas de contradiction substantielle, du reste même légère, entre les différentes parties qui composent cette coalition, sur une question ou une autre. Le budget est toujours voté avec une forte majorité. Les enquêtes menées manifestement contre les intérêts du peuple sont adoptées à large majorité. En fait, je pense, ce qui est réel, c'est que cette majorité, malheureusement, glisse sur la pente savonneuse de la compromission. Parce que lorsqu'on est parlementaire, on a un mandat national, on a une mission par rapport à la population, et on ne peut pas devenir la caisse de résonance du gouvernement. Du reste, ce qui m'étonne quelque peu, c'est pour ça que je parlais de bonne foi au départ, c'est que lors des campagnes électorales, toutes les parties ont fait étalage dans leur programme économique de la poursuite de l'intérêt général, du bienfait de la population congolaise, de la nation congolaise. Alors, il me semble qu'il devrait y avoir, autour de certaines valeurs, autour de certains principes, une convergence indispensable entre la majorité au Parlement et le gouvernement qui met en œuvre cette politique. Or, ici, nous sommes véritablement dans une contradiction substantielle autour des valeurs républicaines, autour des valeurs de la démocratie, autour des objectifs du développement, rappelez-vous le contrat chinois. Il y a toutes ces questions qui nous troublent profondément, parce que, vous savez, lorsqu'on est opposant politique, il me semble, en tant qu'homme d'État, que ce n'est pas pour le plaisir de l'être, mais c'est parce que on estime que, d'une manière fondamentale, la majorité en place n'est pas à même, n'est pas apte à à résoudre les problèmes de la population.
Est-ce que, Romagnini, vous voulez dire que vous avez l'impression que la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, dominée, cette majorité qui domine le Parlement, est décidée à soutenir coûte que coûte le gouvernement, malgré les failles, malgré les erreurs? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire?
C'est malheureusement l'impression que j'ai.
Minakou, vous êtes député national PPRD, est-ce que vous pouvez réagir face aux propos de Romagnini, sénateur MLC?
Je suis tout à l'aise pour réagir.
Allez-y.
Je commencerai d'abord par définir ce que c'est la majorité dans un système démocratique. Parce que je crois que c'est là qu'il y a un problème. Dans un système démocratique, il existe une minorité ou opposition qui a des droits, notamment s'exprimer. Et je crois que, au niveau de l'Assemblée nationale, comme au Sénat, les deux présidents garantissent à l'opposition son droit de s'exprimer. Mais la majorité a aussi les mêmes droits que l'opposition.
C'est-à-dire
s'exprimer aussi pour sauvegarder sa majorité. Il est normal pour toute majorité, que ce soit en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, partout, de se battre au niveau de l'Assemblée nationale pour sauvegarder sa majorité est restée au pouvoir.
Même si le gouvernement commet
pas
des
du
erreurs,
tout.
Parce que
pas
vous devez soutenir, sauvegarder cette majorité,
pas
vous devez la soutenir.
Et donc, pas du tout. Et donc, des expressions que j'entends de temps en temps comme majorité écrasante, c'est des expressions pas du tout péjoratives. C'est tout à fait normal. Le gouvernement est issu de la majorité. Si le gouvernement fonctionne bien, il est normal, et ce n'est pas une honte pour un député de la majorité de soutenir ce gouvernement. Mais s'il y a problème, il est aussi normal que les députés, tant de la majorité que de l'opposition, puissent faire tomber ce ministre, notamment par le biais de la motion de défiance. Mais dire que la majorité d'aujourd'hui est en train de soutenir jour et nuit le gouvernement...
Ouais. Romagnini a dit que le budget passe comme ça, il m'a coûté 3 ans, les enquêtes sont faites, mais vous adoptez comme ça,
nous avons adopté, c'est une attitude antidémocratique de la part d'un opposant qui refuse aux députés de la majorité de soutenir leur majorité pour qu'elle subsiste. C'est une attitude
adémocratique.
Oui, c'est indémocratique parce que autant les députés, autant la majorité doit être tolérante vis-à-vis de l'opposition, autant l'opposition doit savoir que le peuple a confié le mandat à une majorité pour diriger.
Robert Minakou.
Et je termine, s'il vous plaît, par un exemple. Le président français décide d'envoyer des troupes françaises en Afghanistan. Le chef de la majorité de l'UMP à l'Assemblée nationale française fait une déclaration sur RFI que j'ai suivie. Il dit ceci: à titre personnel, je ne vois pas pourquoi on doit envoyer des troupes françaises en Afghanistan. Mais j'ai voté contre la motion de l'opposition. Est-ce une honte? Pas du tout. Mais malgré ce que je viens d'apporter comme précision par rapport à mon entendement et l'entendement scientifique de la majorité, je dirais qu'il est tout à fait normal lorsque un ministre de la majorité commet des fautes graves qu'il puisse être démis par motion de défiance ou par motion de censure s'il s'agit de tous les gouvernements.
Mais on a assisté à l'interpellation, enfin à tout ce qui a suivi le crash de King Ghassani à Kinshasa. Le ministre n'a pas été le ministre Nkunu n'a pas été démis de ses fonctions malgré certains reproches qui lui avaient été faits. Est-ce que vous pensez que Lambert Mende, dont l'opposition pour laquelle l'opposition vient de déposer une motion de défiance, pourrait subir le...
Vous avez parlé du ministre Nkunu, mais dans l'entretemps, il faut rappeler que le ministre du Transport avait quitté le gouvernement à cause de ce dossier crash de King Ghassani. Il faut le dire. S'il n'y a pas eu des griefs devant nous amener à faire partir Nkunu, ce n'est pas un problème. Mais concernant le ministre Mende, je dirais tout simplement que ce soit l'interpellation ou la motion de défiance déposée à l'Assemblée nationale, la motion de défiance est un droit constitutionnel pour tout député. Donc on ne peut pas la contourner. Il est clair que nous allons la procédure a déjà été enclenchée, nous irons jusqu'au bout parce que c'est un droit constitutionnel respecté par cette même majorité.
Et vous êtes prêt également à lever l'immunité diplomatique, l'immunité parlementaire de Francis Kalombo dans l'affaire de la prétendue séquestration des deux parlementaires par un sujet libanais. D'ailleurs, c'est un fait qui a été démenti par la commission Lumbala.
Bon, je dirais d'abord que le rapport de la commission Lumbala a été approuvé par tous les députés sauf un. Et donc, tous les députés PPRD dans la salle ont voté pour le rapport. On demandait que la justice fasse son travail. Si la justice présente une requête pour lever l'immunité, je crois que ce sera la même tendance. Et au niveau du PPRD, aujourd'hui, nous avons tenu une réunion, tous les députés sénateurs ainsi que le comité exécutif. Nous avons stigmatisé l'attitude de nos deux députés, un national et un provincial. Nous avons mis en place une commission de discipline qui va statuer dans les 72 heures.
Romain, il semble acquiescer. Dernière question avant que nous passions à la deuxième partie. Je vous pose des questions parce que vous faites partie de la majorité dont est issu le gouvernement. Donc, c'est vous qui dominez l'Assemblée. Aubin Minakou, vous êtes député national PPRD. Pourquoi y a-t-il des matières importantes qui ne figurent pas dans la session extraordinaire qui vient de s'ouvrir? Par exemple, le rapport d'enquête sur le crash de Kinshasa à Kinshasa. Je crois qu'il y a même une délégation qui était allée en Russie enquêter là-dessus. Il y a aussi le moratoire sur la nationalité de certains députés nationaux qui auraient une double nationalité. Et pourquoi pas aussi l'interpellation du Premier ministre Antoine Gizenga qui avait été évoquée.
Bon, je crois que c'est quand même des questions importantes, mais le travail de l'Assemblée nationale est législatif et de contrôle. Généralement, dans la pratique, lorsqu'il y a une session extraordinaire, ça porte sur les matières d'ordre législatif. Mais dans l'entretemps, je crois que la question sur la nationalité, le fameux moratoire, c'est important parce que c'est une question structurelle. À titre personnel, j'ai des propositions radicales à ce sujet parce que nous devons gérer notre nationalité en tenant compte du contexte moderne.
Et est-ce à dire que quand il s'agit des sujets délicats qui peuvent par exemple enfreindre vos intérêts soit de la majorité ou de l'opposition, vous vous entendez au niveau du Parlement pour étouffer ces affaires, pour ne plus en parler?
Je ne crois pas du tout. Je crois qu'une session extraordinaire, c'est un mois. En un mois, s'il faut adopter certaines lois importantes, notamment sur la réforme du système judiciaire, sur la décentralisation, un mois, c'est plus ou moins 26 jours de travail, et c'est pas toujours évident. Il faut que nous sachions planifier les choses. C'est là l'un des grands défauts de nos Congolais.
Merci beaucoup, Aubin Minakou. Je rappelle que vous êtes député national PPRD. En quoi les lois votées vont-elles améliorer les conditions de vie des Congolais? C'est la seconde partie de cette émission, mais avant cela, si vous voulez réagir, voici comment le faire.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Le manque de contrôle d'application des recommandations faites par l'Assemblée nationale au gouvernement est une des causes faisant que la population congolaise ne se retrouve pas dans toutes les lois votées par ces députés nationaux. Ces propos ne sont pas miens, mais ils sont de l'honorable Ernest Caviro, membre de la majorité présidentielle. Pour lui, le fanatisme, la politique de la chaise vide et la corruption ne permettent pas à l'Assemblée nationale d'être efficace. Ernest Caviro a été joint au téléphone par notre consoeur. Kevin Couté.
Toutes les lois doivent améliorer les conditions de vie si ces lois sont appliquées avec objectivité et surtout si ces lois sont vulgarisées et que les gens qui les enfreignent sont punis. Parce que nous avons fait des lois contre les violences sexuelles. Les violences sexuelles ont continué, le nombre de procès n'a même pas augmenté à moyenne. Voilà un exemple d'une très bonne loi. Il y a des situations où on devait parler, où on n'a pas parlé. Par exemple, comment se fait-il qu'on attaque les camps des déplacés de Kinyononi? Une attaque terroriste condamnée par les États-Unis, condamnée par les Nations Unies, condamnée par l'Union Européenne, le gouvernement se tait et le Parlement ne fait aucun débat là-dessus. C'était une honte pour la qu'il y ait des situations dramatiques qui arrivent à nos compatriotes qui nous ont élus et que ce soit des ONG internationales qui élèvent la voix. Donc il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Il y a des lois, les lois sont là, mais ces lois ne sont pas applicables si on laisse les violateurs de ces lois, libres comme un fier comme Artaban, ils continuent à rouler carrosse, pendant que vous voyez très bien qu'ils sont en train de violer des lois majeures et même la loi fondamentale. Comment se fait-il, par exemple, que le gouvernement n'applique pas nos recommandations et nous ne les sanctionnons pas? Comment on peut continuer à fonctionner avec un gouvernement qui, visiblement, ne répond pas à ces thèmes de référence?
Moi, je pense qu'il y a une confusion entre responsabilité et soutien politique.
Merci beaucoup, honorable Xaviro. Du côté de l'opposition, l'honorable Jean-Claude Bouemba pense que c'est difficile que la population palpe du doigt les avantages de lois votées par l'Assemblée nationale et pour cause toujours la non-exécution de ces recommandations par l'exécutif. Jean-Claude Bouemba a été une fois de plus joint au téléphone par notre consoeur Kevin Couté.
Mais le problème, nous, c'est qu'on veut le dire, on l'Assemblée nationale mieux que la Chambre législative, c'est le gouvernement qui est l'exécutif. Nous, nous produisons des lois et c'est le gouvernement à le mettre en place. Que reconnaissons cette inefficacité et l'incompétence de ce gouvernement, comment voulez-vous que la population congolaise puisse palper les lois que l'Assemblée nationale est en train de légiférer? Mais quand vous voyez le gouvernement de M. Antoine Gizenga berné dans un sommeil profond, mais c'est difficile que le peuple congolais puisse palper du doigt les travaux qu'on est en train de faire. Vous savez, partout au monde, si le gouvernement n'est pas en mesure de faire des réformes structurelles graves qui peuvent dépendre même de l'impopularité de ce gouvernement, il n'y a aucun changement par rapport à la population.
Merci beaucoup, Jean-Claude Bouemba. Je me tourne vers vous, Romain Nimi. Je rappelle que vous êtes sénateur MLC. Votre réaction par rapport à ces deux propos, l'un d'un député national de l'opposition, Jean-Claude Bouemba, et l'autre d'un député national de la majorité présidentielle, Ernest Kabiro, apparemment qui fustige le manque d'application des lois votées à l'Assemblée nationale et au Sénat, et que le gouvernement aussi n'applique pas les résolutions, recommandations qui sortent du Parlement, et bizarrement, le Parlement aussi ne sanctionne pas le gouvernement.
Écoutez, je suis à peine surpris de cette convergence évidente de vue.
Ça peut arriver.
À peine surpris, parce que nous nous côtoyons dans les couloirs, et je sais qu'il existe des hommes de valeur au sein de cette majorité, heureusement.
Je
parle de la majorité. Et je disais à peine surpris parce que, en fait, tout homme de bonne foi aujourd'hui ne peut passer à côté de cette évidence qui est que le gouvernement n'applique pas les recommandations et lois émanant du Parlement. Ce n'est pas une question d'empêcher que les amis ou les sympathisants de cette majorité soutiennent leur majorité, ce qui est un droit constitutionnel. Là n'est pas la question. La question, c'est le soutien à quel prix. Il n'est pas concevable qu'un nationaliste puisse soutenir à n'importe quel prix, tel un mouton de Panurge, tout ce qui se fait, au sens, au nom du clivage politique, au nom du suivisme politique. Voilà là où la question blesse l'éthique. Voilà là où la question blesse la moralité. Ce que nous voulons, nous, c'est qu'il y ait effectivement des signaux forts par rapport à la relance économique. Des signaux forts par rapport à la fin de l'impunité. Des signaux forts par rapport à la reconstruction nationale. Et non pas seulement des slogans. Et c'est à partir de ce moment-là que l'opposition pourrait évoluer dans sa nature. Alors, voyez-vous, j'ai tout souvent donné l'exemple de la construction de maisons. J'entends souvent ça et là, des gens de la majorité, reprocher à l'opposition de ne pas émettre des propositions constructives. Mais je vous donne l'exemple d'une maison. Lorsque on construit une maison et que manifestement le plan de cette maison est calamiteux, que vous êtes persuadé que tel que cela est planifié, la maison va s'écrouler. Et que donc, à long terme, les enfants manqueront de logis.
Rapidement, s'il vous plaît.
Ok, je termine. Vous n'aurez donc pas à proposer du ciment ou de la caillasse à une œuvre qui est manifestement mauvaise. Mais c'est à partir du moment où vous êtes d'accord sur l'édifice, que les différences sont mineures sur le nombre des chambres, etc., que vous pouvez, à ce moment-là, collaborer dans ce sens. C'est le sens des différentes alliances. Nous, nous sommes dans l'opposition parce que nous pensons que, fondamentalement, la majorité n'est pas apte elle le démontre, à conduire le peuple vers son bien-être et son développement. Je serai le premier à être heureux d'être démenti par les faits. Merci parce que cela irait dans le sens du bien-être de la population.
Professeur Philippe Guyoya, je rappelle que vous enseignez les relations internationales à l'Université de Kinshasa et dans plusieurs autres universités du pays. Vous êtes analyste politique. Est-ce que vous êtes également surpris par la convergence de vues entre les députés nationaux ANP, Kia Biro, et les députés de l'opposition Jean-Claude Bouemba sur la non-application des lois, recommandations et résolutions qui sortent du Parlement, ce qui fait que, d'après lui, la population congolaise ne ressent pas concrètement comment ces lois, ces résolutions, ces recommandations peuvent améliorer ses conditions de vie.
Claude, je ne suis pas que pour procès des relations internationales, je suis spécialiste des institutions politiques. Je crois que si on laisse de côté les considérations politiciennes, je vous ai dit que la difficulté fondamentale du point de vue de l'analyse institutionnelle provient du système que nous avons. Parce que ce système tel qu'il est, on ne sait pas s'il est parlementaire à 100%, s'il est semi-présidentiel, donc s'il est parlementaire rationalisé à la française, il ne peut pas fonctionner si on ne comprend pas sa vraie logique. Parce que si vous la prenez comme Aubin l'a dit avec raison, il prend des exemples aussi du président français, si ça fonctionne comme le système français, c'est que c'est le président de la République qui devrait peut-être au jour d'aujourd'hui faire un peu l'hyper-présidentialisme comme le fait Sarkozy. C'est qu'en fait, il ne regarde pas tellement à son premier ministre, puisque c'est lui qui a donné au Parlement sa majorité, doit l'actionner parce qu'en fait, il est aussi en fait membre de l'exécutif. Mais de ce côté-là, j'ai quand même l'impression que le président, quoique il figure dans ce système, ses conseillers lui disent qu'il n'a pas en fait de rôle puisqu'il n'est pas responsable devant le Parlement. Alors que l'empirisme, le pragmatisme institutionnel aurait voulu que ce soit lui effectivement qui prenne les choses en main. Je vous ai dit que Gizenga, qui n'est même pas député, qui est fait ministre à partir d'un accord extra-parlementaire, n'est pas le leader de la majorité et du point de vue de l'analyse institutionnelle, mais je crois qu'il peut être de bonne volonté s'il n'est pas impulsé, il n'est pas poussé à agir par le président de la République qui dispose en fait en définitive de la majorité, il ne saura pas agir. Et je crois qu'on ne doit pas minimiser le fait que ça fait une majorité de coalition hétéroclite, une majorité constituée en fait non pas à partir de force du Parlement, mais à partir du soutien à l'élection présidentielle, donc au président de la République. Donc nous avons déjà là-bas une difficulté technique institutionnelle qui ferait que même si on nommait un membre de l'opposition premier ministre, il pourrait ne pas fonctionner avec ce système. Donc le problème de la convergence, je l'ai dit, c'est un problème qui engage tout le Parlement, parce qu'en fait les décisions du Parlement ne sont pas les décisions de la majorité qui l'adopte, c'est de tout le Parlement. Le Parlement là, il n'a pas de pouvoir et ce Parlement là ne réussit pas en fait à pousser le gouvernement à agir, parce que le gouvernement, c'est le gouvernement qui a reçu l'investiture du Parlement, tout le Parlement.
Professeur Biyoya, si je vous comprends bien, ce que vous voulez dire, que si le peuple congolais, beaucoup de Congolais ne ressentent pas encore l'amélioration de leurs conditions de vie suite aux lois qui sont adoptées au Parlement ou aux résolutions, recommandations, c'est parce que le Premier ministre Gizenga n'a pas de pouvoir concrètement. Est-ce que vous voulez dire, vous voulez dire, excusez-moi, professeur, est-ce que vous voulez dire par là que si il y avait le Premier ministre était du PPRD, vous pensez que le peuple congolais allait ressentir concrètement l'action du gouvernement sur le terrain?
Non, je ne dis pas, je dis ceci, que dans la façon de gérer le pouvoir, il y a besoin d'un pragmatisme. On doit sortir en fait du formalisme. Parce que ici chez nous, la plupart des constitutionnalistes, dont mon jeune frère et mon cousin Aubin, sont trop formalistes. C'est que généralement, moi j'étais aussi dans les affaires, je sais souvent que l'équipe juridique du chef de l'État souvent amène le président à se figer dans la constitution, alors qu'il n'y a aucune constitution au monde qui bloque en fait l'action du président, parce que le président, il doit pouvoir agir librement, quitte en fait au pouvoir judiciaire de juger de la conformité de la légalité des actes du gouvernement. Mais ici, il y a une sorte de paralysie. C'est-à-dire qu'il y a un pragmatisme dont tout le monde devrait faire montre pour comprendre que les lois, le développement normatif dont on parlait au vert n'a pas de sens s'il n'y a pas d'action. On ne peut pas faire le loi pour le plaisir de le faire. Les deux chambres prennent du plaisir à faire des lois tous les jours. Ils le font à un rythme en fait accéléré. Ils ne prennent pas le temps de délibérer suffisamment, de travailler avec beaucoup de responsabilités. Ils agissent parce qu'ils ont des fonctions, ils sont devenus comme des fonctionnaires.
Merci beaucoup,
et là, ils doivent se remettre en question avant de se critiquer.
Oui, Aurélien, à quoi est-ce que vous pouvez répondre, vos professeurs, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Bon, je crois qu'en ce qui concerne la problématique institutionnelle, Philippe a raison, Mais je voudrais ajouter, en fait, concernant la problématique institutionnelle, je disais, Philippe Bieu a raison, mais il faudrait ajouter que les constitutions des vieux États prennent du temps avec la pratique. Et je crois que c'est cette donne du temps que nous n'arrivons pas à intérioriser.
C'est-à-dire ?
Nous n'arrivons pas à comprendre que pour mettre en œuvre, pour cristalliser une pratique constitutionnelle, ça peut prendre 10, 20, 30 ans. Et donc, il faut relever les
pas. Que les Congolais attendent depuis 30 ans.
Pas du tout. C'est pas ce que je dis. C'est pas
votre action au niveau du Parlement.
J'explique, j'ai fait un ajout par rapport à l'interprétation doctrinale du professeur Bieu. Mais concernant mon collègue de la majorité, Chiaviro, je relève d'abord que c'est une très bonne chose qu'au niveau de la majorité, chacun puisse avoir son point de vue. C'est ça la démocratie. Et il faut s'en féliciter. Mais j'ajoute, une loi adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale, pour sa mise en œuvre, je donne un exemple, une loi sur les violences sexuelles. Pour mettre cette loi en œuvre, pour qu'elle soit réellement d'application, qu'elle soit ressentie par la population, ça prend combien de temps ? Posez la question à Chiaviro, il ne vous donnera pas une réponse technique. Ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'il faut vulgariser, il faut adapter les institutions à la base et il faut enfin appliquer.
Mais comment mettre fin à l'impatience de beaucoup de Congolais? Il y a par exemple Nico Munganga de Bukavu au sud Kivu qui estime que malgré les lois déjà votées, les conditions de vie de la population congolaise demeurent très déplorables, sauf celles de tenants de pouvoir. Il y a un auditeur aussi anonyme qui affirme que c'est bien de voter des lois, mais pour quelle utilité? D'après lui, les agents de l'État sont oubliés, les salaires rabattus et payés souvent près plusieurs jours de retard, les gardes rabattus et les noms oubliés sur les listings. Que fait le Parlement, s'interroge-t-il?
Je ne fais pas un discours populiste du genre le gouvernement est dans un sommeil profond, etc. Je dis tout simplement ceci. Lorsque une loi est adoptée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président, si vous devez poser des questions sur sa mise en œuvre 2 mois après seulement, c'est que vous ne comprenez pas du tout le cursus d'une loi. C'est là le problème. Mais en même temps, je partage avec mes amis de l'opposition les difficultés quotidiennes sur le plan social de la population, c'est vrai.
Merci
et
beaucoup.
Sur ce point-là, c'est pourquoi j'appuie le contrôle parlementaire, tous azimuts, contre les différents ministres qui ne seraient pas à la hauteur de leur tâche.
Même s'ils sont Merci beaucoup. Bonsoir, Anselme Sikimoumbéré.
Bonsoir, Christian.
Vous avez recueilli quelques réactions de nos auditeurs parmi les plus pertinentes. Qu'est-ce que vous avez choisi?
Il y a Pascal Malengui depuis Bukavu dans le sud Kivu qui dit ceci. Voter beaucoup de lois est une bonne chose, mais on ne peut pas besoin de l'exécution de ces lois. Kaseba Mouba dans le Katanga se dit désolé. Car à mi-parcours du mandat et à quelques mois de la naissance de nouvelles provinces, il n'y a pas toujours de loi sur la décentralisation des provinces, et pire encore, ajoute-t-il, rien pour organiser les magistrats, c'est une violation de la Constitution, conclut-il. Nathalie Sabaraka ensuite qui vous affirme que, pour mieux faire le bilan, il faut d'abord commencer à voir si les différentes résolutions et recommandations du Parlement sont déjà appliquées. Il s'interroge, quels sont les résultats des enquêtes parlementaires? Les lois adoptées auront du mal à être appliquées. Pour lui, on ne sait pas vraiment les effets d'entraînement de toutes ces lois, résolutions et recommandations. Par conséquent, le bilan est négatif.
Merci beaucoup, Anselme Sikimoumbéré. Je me tourne vers vous, Romain Nimi. Vous êtes sénateur MLC. Je vous demande de réagir rapidement parce qu'on est à la fin de l'émission. Il y a aussi Jean-Pierre de Moba au Katanga qui rappelle que ventre affamé n'a point d'oreille. Selon lui, pour soulager le misérable peuple congolais, une seule lueur d'espoir, la loi sur la décentralisation qui traîne au détriment du peuple congolais.
Écoutez, je répondrai assez rapidement. Cette loi ne traîne pas. Elle est une loi fort complexe, très complexe, qui a été travaillée au niveau du Sénat et qui sera abordée pendant la session extraordinaire au niveau de la commission paritaire, c'est-à-dire qui réunit les experts des deux chambres. C'est une loi importante, c'est vrai, mais qui n'est pas venue à l'examen du Parlement sous le sceau de l'urgence, parce que cette procédure existe et le gouvernement aurait pu l'utiliser. Donc c'est dans la procédure ordinaire, mais nous sommes extraordinaires. Je vous dis que ça pose des questions complexes. C'est la première fois que le pays s'engage dans une réforme aussi profonde. Il y a le régionalisme constitutionnel qui fait son apparition au niveau des provinces. Il y a des établissements territoriaux décentralisés. Cette loi, elle va être complétée par une autre loi sur la déconcentration qui est en travail au niveau du Sénat. Donc, le travail se fait. Cette question, il est vrai, est à distinguer de notre question de tout à l'heure sur l'application, les mesures d'application. Ceci me pousse à rappeler aux Congolais qu'il est important, au niveau du choix, lorsqu'il y a des élections, des votes, de ne pas seulement choisir des bons animateurs au niveau de l'appareil législatif, mais il faut le faire aussi avec un regard critique sur les animateurs de l'exécutif,
parce que ça va ne pas être. Mais certains Congolais pensent que c'est vous qui tirez votre épingle du jeu, vous les députés ou les sénateurs. Vous êtes bien socialement alors que la population est oubliée.
Non, je pense que la question, c'est ne pas de savoir si les ministres, parce qu'il n'y a pas que les députés, les ministres ou
Je voulais tout simplement que ventre affamé n'a point d'oreille. L'une des réponses concrètes du gouvernement, c'est les contrats chinois. Je crois que c'est un effort.
Merci beaucoup.
Pour encourager.
C'est par vous que nous terminons cette émission, qui l'une côté l'a réalisée. Sylvain Borgour était à la mise en onde, Dima était à la préparation, et en scène ici, Simon Béré a recueilli les réactions des auditeurs. Merci à tous nos invités, à nos auditeurs. Au revoir et à demain.